Bonjour, shalom, assalam alaikum. Après quelques mois de pause, la radio du littoral a l'immense plaisir de reprendre ses émissions. Et dans ce cadre, nous érigeons notre studio ce vendredi 5 mai 2023 dans la commune Lac 3 à Agodrafo. Et c'est la troisième fois que nous nous retrouvons ici à Agodrafo. La radio du littoral, faut-il le rappeler, c'est ce consortium de 10 médias piloté par Canal FM et nous nous assignons comme mission essentiellement de vous informer le plus amplement possible sur le projet d'investissement pour la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest, le projet Waka Recipe Togo. L'une des activités phares du projet Waka consiste à protéger nos côtes contre l'érosion. Et le 3 novembre 2022, vous vous rappelez, Madame la Première Ministre avait en personne lancé solennellement les travaux, c'était à Anéro. Et aujourd'hui, 5 mai 2023, nous allons débattre du renforcement des infrastructures de protection de la côte entre Agodrafo et Anéro. Quel est l'état d'avancement des travaux? Nous allons aussi nous intéresser aux mesures environnementales et sociales dans le cadre justement des grands travaux de protection de notre côte. Et pour la circonstance, j'ai autour de moi la consoeur Juliette Kamde de Radio Lomé. Juliette, bonjour.
Sasse, bonjour à tous nos éditeurs, bonjour.
J'ai aussi à ma droite Aglamé Abel, qui est de la radio de Vaud. Bonjour Abel.
Bonjour Sas, bonjour à la commune de Lac 3.
Et ensuite, un nouvel ancien, c'est Félix Anoumou de sa vie de RTDS. D'accord, Félix Anoumou, bonjour.
Bonjour Sas, bonjour à toutes et à tous.
Eh bien, je rappelle juste que Félix Anoumou de sa vie vient remplacer Tony Marcel au nom toujours de RTDS Anéro. Moi-même, vous en doutez, je suis Kodjo Tété Innocent Sasgaou. Et cette émission est réalisée par Victor Bekoku, Michel Tominga et Jérôme Akoucha depuis ici, pendant que Thomas Datevi assure la coordination depuis Lomé à la base Canal FM. Les autres médias partenaires de la radio du Toral sont avec nous. Je cite comme ça dans le désordre Nana FM, Taxi FM, les journaux L'Union, Liberté. Il y a aussi le site Togo Fest. Je ne sais pas si j'en oublie. Le compte FM et également Radio Mokpokpo d'Afanya. Eh bien, comme c'est une tradition, nous démarrons toujours nos émissions par une pensée du jour. Et aujourd'hui, c'est Pierre Desproges qui dit, citation, « Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. » Qu'on me pardonne, mais c'est une phrase que j'ai beaucoup de mal à dire sans rire. Encore une fois, c'est Pierre Desproges qui a écrit, je reprends, « Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. » Qu'on me pardonne, mais c'est une phrase que j'ai beaucoup de mal à dire sans rire. Alors, les droits de l'homme, est-ce que nous sommes tous égaux, en droit? Chacun pourra se faire son opinion. Eh bien, cette émission, nous ne pouvons pas la démarrer sans faire l'honneur à monsieur le maire de la commune Lac 3, le maire Edoué Gon, que nous invitons à ce plateau pour nous souhaiter la bienvenue. Monsieur le maire, bonjour.
Bonjour, Sas.
Je le disais, c'est la troisième fois que vous nous faites l'honneur de nous accueillir dans votre commune. Alors, dans quelle disposition vous accueillez-nous aujourd'hui?
Oui, Sas, merci beaucoup de penser à la commune Lac 3. Et tout d'abord, je remercie tout le consortium de la radio littorale et tous les dirigeants du projet Waka, Boscalis et tous les participants et participantes qui sont ici. Et je vous souhaite la bienvenue dans la commune Lac 3 avec beaucoup de plaisir.
Merci, monsieur le maire. L'une des activités phares du projet Waka, c'est protéger la côte togolaise contre l'avancée de la mer. Votre commune, dont Agodrafo, est victime de ce phénomène.
Nous allons évaluer les travaux et à la fin, vous nous ferez l'honneur de porter les témoignages de la commune sur les travaux, monsieur le maire.
Merci et je vous attends à la fin que je vous dis tout ce qui est de la population sur ce projet.
Merci, monsieur le maire. Merci également pour le public que vous avez fait déplacer pour nous assister en direct dans cette émission. Notre deuxième invité, c'est le coordonnateur du projet Waka Recipe Togo, Dr Abdou Rahim Halimi. Monsieur le coordonnateur, bonjour.
Bonjour, Sass.
C'est un grand plaisir de vous avoir avec nous. Vous faites le déplacement sur tous les sites sur lesquels la radio du littoral se déplace. C'est un grand honneur. Eh bien, votre projet, le projet Waka Recipe Togo, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que vous faites pour les populations togolaises? Monsieur le coordonnateur.
Merci beaucoup, Sass. Je crois dire que le plaisir est plus pour nous de vous avoir avec nous. Je crois qu'on le rappelait tout de suite, ça fait 11 émissions qu'on a animées en 2022. On est à la première en 2023. Je voulais d'abord saluer cette disponibilité que l'ensemble des médias partenaires ont montré pour nous aider justement à pouvoir communiquer par rapport au projet Waka. Et pour revenir à votre question, le projet Waka, comme je vous le dis, c'est un des grands projets du gouvernement qui a pour objectif, en fait, de renforcer la résilience des communautés, des populations du littoral. Pour cela, le projet a, disons, 5 domaines principaux d'intervention. On a tendance, généralement, à confondre le projet Waka à la protection côtière. Je crois qu'au-delà de la protection côtière, le projet intervient de façon aussi substantielle sur les questions de lutte contre les pollutions, de lutte contre les inondations, de conservation des écosystèmes à haute valeur de biodiversité et de gestion durable des terres. Bon, et de façon transversale à tout ça, puisque nous disons que nous renforçons la résilience, le projet aussi travaille dans le renforcement des moyens de subsistance des populations. Ce qui fait que quand vous prenez globalement le projet, nous avons deux types d'investissements. Il y a les investissements physiques qui vise en fait à mettre en place les ouvrages, les infrastructures liées à la protection côtière, la lutte contre les inondations, à la gestion des déchets, ainsi de suite, et les investissements sociaux qui vont directement aux communautés pour leur permettre justement par rapport à ce renforcement de leurs moyens de subsistance là, de pouvoir justement pouvoir porter des actions qui visent à leur redonner toute cette capacité-là. Parce que, comme vous le savez, quand on est dans un milieu agressif ou dans un milieu où il y a tant d'aléas, les populations sont, en fin de compte, vulnérables. Et pour leur sortir de cette vulnérabilité, je crois qu'il faut les accompagner. C'est ça le sens, en fait, de nos investissements sociaux à travers les projets communautaires. Voilà un peu globalement résumé, si je peux dire, le projet Waka dans ses activités.
Merci, monsieur le coordonnateur. Mais il faut rappeler que le projet Waka n'est pas une spécificité du Togo, c'est un projet qui couvre un certain nombre de pays de l'Afrique de l'Ouest.
Exactement. C'est le projet Waka, en fait, est un projet régional. Aujourd'hui, nous sommes 6 pays participants à ce projet. Il y a le Togo, le Bénin, le Sénégal, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, Sao Tomé et Principe. Et très bientôt, il y a 3 autres pays qui vont se joindre au projet, le Ghana, la Guinée-Bissau et la Gambie, qui sont en fait les 3 pays qui vont venir s'ajouter au projet pour faire 9 pays. Je crois qu'à terme, le projet va s'étendre à l'ensemble des pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest, puisqu'en fait, le programme en lui-même, c'est le programme de gestion du littoral ouest-africain. Donc, les pays, en fonction des exigences du projet, dès qu'ils finissent de les remplir, les projets intègrent au fur et à mesure.
Merci également à rappeler que dans sa première dimension, le projet Waka bénéficie du financement de l'Association internationale de développement IDA et du Fonds pour l'environnement mondial administré par la Banque mondiale, en attendant que d'autres partenaires éventuellement viennent s'y ajouter.
Bon, je vais peut-être tout de suite vous rassurer que en dehors de ces deux bailleurs aujourd'hui, il y a l'Agence française de développement, ça je peux le dire puisque les discussions sont déjà pas mal avancées. Donc l'Agence française de développement qui est en train aussi d'intervenir dans le financement du projet Waka pour permettre de compléter la protection sur le segment qui va de Bodjomé à Goudrafo. Donc je crois que les discussions sont pas mal avancées. On est à l'étape de la signature de l'accord de financement pour permettre au niveau du projet Waka aussi de pouvoir assurer la protection de ce segment.
Merci monsieur le coordonnateur. C'est toujours utile de rappeler que l'activité phare, c'est la protection de la côte, mais il y a d'autres activités sur lesquelles travaille le projet Waka. Et les auditeurs de Radio de Littoral se souviennent que nous étions dans des localités comme Folivijo, comme Edouokikopé, comme Afito ou encore Saint-Gaudien dans le Yoto. Nous nous déplaçons sur toutes les activités que pilote le projet Waka. Merci docteur Adou Rahim Alimi de nous rappeler votre projet, les activités que vous menez. Maintenant, le thème de ce jour, c'est les travaux de protection de la côte togolaise, notamment entre Agbodrafo et Anéro. Qu'est-ce qu'il en est? Je passe la parole au confrère et ami Abel Aglamé. Abel, rebonjour.
Rebonjour, Sass. Merci de me passer la parole. Nous allons nous entretenir avec M. César Zebio. Il est ingénieur génie civil côtier senior. Il est déjà sur place. Il va essayer de nous dire ce que contient ce projet. Monsieur César Zebio, une question plus banale, pourquoi est-il important de mettre à exécution ce projet?
Ok, bonjour tout le monde, bonjour Abel. Ben, pourquoi c'est important de mettre ce projet? Je pense que les populations du littoral, si elles sont là, elles allaient vous répondre très rapidement. Et tout le monde sait que sur la côte togolaise, du port de Lomé jusqu'à arriver à la frontière à Ilakondi, la mer est en train de descendre les maisons, les infrastructures. C'est ce que nous appelons les régions côtières, donc la mer est en train de gagner de la terre. Et donc, face à cela, le gouvernement ne peut pas rester les bras croisés. Donc, le gouvernement, rapidement, depuis fort longtemps, a essayé de mettre en place un certain nombre de projets pour faire face à cette érosion, donc à ce phénomène qui est un phénomène naturel. Donc tout ce que je peux dire, c'est que le phénomène a commencé à se faire sentir dans les années 69, après l'érection d'abord au Ghana, donc du barrage d'Akosombo, et au Togo dans les années 63, donc du port autonome de Lomé. Alors, dans les années 63, donc le port a été mis en place et déjà dans les années 69, on a commencé par voir que côté port vers le Ghana, donc côté ouest, là-bas, c'est de l'accumulation de sable, alors que côté port vers Agbodrafo, vers Anéro, donc vers le Bénin, vers la frontière, là-bas, c'est les infrastructures qui sont en train d'être avalées par la mer. Même la route internationale Lomé-Anéro-Cotonou, donc frontière également, l'ancienne route a été déjà également dans la mer. Donc c'est face à cela qu'il est important que le gouvernement mette en place des stratégies pour arrêter. Donc merci. Voilà ce qu'on peut dire.
D'accord. Monsieur Zébier, revenons même au projet. Qu'en est-il exactement? Ces travaux ont déjà commencé?
Oui. Le projet Waka a été mis en place tout à l'heure, le coordonnateur le disait, au niveau régional, au niveau ouest-africain, pour faire justement face à ce phénomène d'érosion. Et le Waka Togo a commencé depuis juin 2018, d'abord par ce que nous appelons la phase étude. Donc pour faire les études, pour ces grands travaux, il faut faire des recrutements, et souvent c'est des cabinets, des entreprises internationales. Et donc ça prend du temps, le recrutement. Une fois que le recrutement a été fait, depuis donc le début d'année 2022, les travaux ont démarré dans les deux pays, puisque c'est des travaux qui se font en Togo et Bénin. Puisque comme je le disais, comme le coordonnateur l'a dit, c'est des travaux, le projet Waka est régional. Quand nous faisons donc des travaux au niveau du Togo, ça crée des problèmes au niveau du Bénin. On peut y revenir là-dessus à cause donc de la dérive naturelle qui va donc de l'ouest vers l'est. Donc les travaux ont démarré en début d'année 2022 et sont presque à la fin au jour d'aujourd'hui. Donc on pourra peut-être revenir plus tard sur les détails de ces travaux.
Voilà. Et l'état de ces travaux justement?
Alors, pour ces travaux, comme je le disais tout à l'heure, c'est toute la côte, hein, depuis le port de Lomé jusqu'à la frontière avec le Togo qui est en érosion. Et comme je le disais, il y a plusieurs causes, mais le plus important, hein, qui sont anthropiques, c'est l'érection donc du port de Lomé et du barrage d'Akosobo au Ghana. Et pourquoi? Parce que dans la mer, il y a un phénomène naturel qui se passe. Il y a les sédiments naturellement que nous appelons la dérive littorale. Ces sédiments qui naturellement, l'ouest, c'est-à-dire côté Ghana, pour aller vers le Bénin, donc vers l'est. Et donc, avec l'érosion donc de ces ouvrages sur la mer, particulièrement le port de Lomé, donc dans les années 63, la jetée principale qui fait près de 1 km 500 bloque donc ces sédiments qui devaient naturellement quitter l'ouest, côté Ghana, pour aller vers l'est, côté Bénin. Et donc, face donc à ce phénomène, la mer qui ne trouvait plus donc de sédiments qui est bloqué au niveau du port, la mer est obligée donc de venir remplacer ça en cherchant ça à terre, et c'est ça qui crée donc ce phénomène. Donc pour pouvoir résoudre cette érosion, donc ce problème, plusieurs solutions s'offrent. Et donc les études techniques ont démontré, ou du moins sont choisies, ce que nous sommes en train de mettre en œuvre actuellement, qui est la solution dure, c'est-à-dire les épis. Et donc dans ce cadre, au niveau donc du Togo, nos travaux sont prévus particulièrement dans le cadre de Waka, donc dans deux grandes villes, notamment à Nehor. À Nehor, où le gouvernement avait déjà mis en place dans les années 2012-2013 des épis, hein, puisque le phénomène date depuis 1969. Donc là, on a, au niveau de Waka, l'étude a demandé donc de renforcer, donc de réhabiliter, de l'allonger, de renforcer donc les épis existants. Donc 6 épis existants ont été allongés de 10 mètres et réhabilités complètement, puisque ça a été mis en place depuis 2012. Toujours au niveau d'Anehor, il y avait une brise-lame également au niveau derrière donc l'ancienne cathédrale donc d'Anehor, pour ceux qui connaissent la ville. Donc la brise-lame également a été réhabilitée et prolongée de 200 mètres pour pouvoir faire face toujours au phénomène de la mer. Toujours au niveau d'Anehor, c'est prévu également la construction donc d'une digue de sable contre les submersions marines, c'est-à-dire les hautes marées qui débordent et qui rentrent dans les maisons. Donc cette digue de sable va protéger donc les maisons riveraines contre cela. Voilà ce qui est prévu pour la ville d'Anehor. Donc pour la deuxième ville, donc la ville d'Agbodrafo, là il n'y avait pas du tout d'ouvrage avant de protection. Donc le projet Waka, l'étude a demandé, en tout cas pour cette phase, de faire la construction donc de 7 nouveaux épis. Des nouveaux épis, donc des ouvrages qui varient donc de 65 à 70 mètres. Et bien sûr, maintenant, ça on l'avait dit également au niveau d'Anehor comme à Agbodrafo, c'est prévu le rechargement en sable de mer, des casiers donc entre les ouvrages, pour réhabiliter la plage. Et ce sable donc est prévu être pris en haute mer, au moins à 7 km donc de nos côtes. Voilà. En plus maintenant de ces ouvrages de protection, le projet Waka a prévu un peu d'infrastructures socio-économiques, particulièrement pour la ville d'Anehor, où c'est prévu la construction donc d'une piste cyclable d'environ 3 km donc qui va être construite avec un parking, avec deux parkings. Voilà un peu ce qui est prévu dans le cadre de Waka, en tout cas cette phase, pour les travaux de Waka. Mais comme je le disais, oui, il y a d'autres projets qui s'occupent du reste de la côte, notamment donc du port de Lomé jusqu'à Bodjomé. Il y a un autre projet qui est le même projet qui est en train de faire la route, le développement de la route, qu'ils appellent le projet Corridor, qui est piloté par le ministère des Travaux Publics. Maintenant, le projet Waka, lui, les travaux concernent le segment Agbodrafo frontière. Mais tout à l'heure, je disais qu'il y a un autre projet qui a pris donc de Bodjomé au port. Donc il reste de Bodjomé à Agbodrafo, Et au jour d'aujourd'hui, le gouvernement également a réussi à trouver un financement qui est l'AFD et qui va être d'ailleurs remis en continuité au projet Waka. Donc bientôt, ce segment également va être en chantier pour protéger donc le segment à Baudrafort, à Bodjomé, long de 7 km. Voilà un peu ce qui est prévu pour les travaux.
Monsieur Eusebio, à l'heure d'aujourd'hui, où en sommes-nous en termes de bilan?
Voilà, au jour d'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, les travaux sont presque terminés. Les travaux donc de Abodrafort à Ilakoni, donc à la frontière, sont terminés. Côté Aného, les sous-ouvrages prévus être allongés et réhabilités sont finis. La digue de sable, comme les subventions marines également, est terminée. Et ce qui reste seulement pour la ville d'Aného et qui va bientôt démarrer, c'est la piste cyclable et le parking. Au niveau d'Abodrafort également, les travaux sont presque terminés. Les 7 ouvrages sont déjà construits, les 7 épis sont construits. Et le rechargement également en sable de mer également est déjà fait. Donc, on peut dire au jour d'aujourd'hui, les travaux sont à 98% terminés.
Merci. Monsieur César Eusebio, vous êtes ingénieur génie civil côtier senior. Merci pour toutes ces explications. Mais j'en ai pour une minute, mais je veux passer la parole d'abord à Sass pour quelques...
Merci Abel également. Je voudrais rester un peu avec monsieur Eusebio que je salue. Bonjour.
Et bonjour Sass.
Eh bien, vous venez de le dire, les 7 épis ont été érigés à Aného dans les années 2012-2013. Une dizaine d'années après, il s'avère important de les renforcer. Alors, qu'en est-il de la durée maintenant des épis que vous renforcez à Aného et des nouveaux que vous construisez maintenant à Abodrafort?
Ok. En fait, un ouvrage est dimensionné pour tenir compte d'un certain nombre de phénomènes donnés. Donc, au niveau de Waka, les ouvrages que nous mettons en place sont dimensionnés pour 50 ans. D'accord? Et comme vous le savez également, tout ouvrage a besoin d'entretien. D'accord, c'est dimensionné pour 50 ans, mais ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on a mis ça en place, on laisse ça et que c'est après 50 ans. Mais sans entretien, il peut y avoir des problèmes dessus. Donc, et je crois que c'est le cas des ouvrages qui ont été mis en place dans les années 2012 dans le cadre de l'UMOA au niveau d'Aného. Et en fait, c'est vrai que ces ouvrages jouent encore leur rôle, mais nous, notre étude a démontré pour que ce soit encore plus efficace qu'il faut les allonger, les réhabiliter de 10 mètres. Donc, voilà ce qu'on peut dire concernant les ouvrages.
Donc, on peut espérer que ces ouvrages protègent nos côtes encore une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine d'années?
Absolument, puisque c'est dimensionné pour 50 ans. Maintenant, il y a bien sûr le rechargement de sable qui n'est pas un ouvrage, donc le rechargement de la plage. Là, compte tenu du phénomène que j'ai expliqué tout à l'heure, donc la dérive naturelle allant donc de l'ouest vers l'est, ce rechargement, la mer va commencer quand même par prendre un peu. Donc, sans entretien, ça va partir. Donc, au moins, tous les 15 ans, il faut le renouveler. Sinon, on risque de ne plus avoir ce sable qui va partir, va être pris par la mer. Sinon, c'est des
questions, monsieur Eusebio, vous savez que nos populations ici pratiquent beaucoup la pêche. Est-ce que les ouvrages que nous réalisons pourraient porter préjudice aux activités de pêche? Également, nous avons une belle plage de loisirs. Alors, est-ce que nous pourrons continuer à aller pêcher en mer? Est-ce que nous pourrons également continuer à profiter de la plage pour nos loisirs, monsieur Eusebio?
Mais bien sûr, je pense que ceux qui sont déjà allés vers la plage, que ce soit à Ného ou à Abodrafort, ils ont vu que la plage est nettement plus grande. Et les ouvrages, tout à l'heure, on parlait des ouvrages d'Aného qui existaient déjà avec le projet Emoa depuis les années 2012-2014. Mais ces ouvrages étaient là, mais les gens faisaient la pêche. Donc ça veut dire que nos ouvrages n'empêchent pas la pêche. Voilà ce qu'on peut vous dire.
Merci. Un complément d'information de la part du coordonnateur.
Oui, c'est un peu schématiquement pour vous dire. Hein. C'est-à-dire que les ouvrages, les épis dont on parle sont des ouvrages qui sont construits perpendiculairement. Entre deux épis, vous avez une distance d'au moins 350 mètres qui est rechargée. C'est-à-dire qu'on est allé chercher du sable au fond de la mer pour mettre entre ces deux épis, c'est-à-dire pour recréer la plage. Donc, vous voyez, entre ces différents épis, vous avez de la plage qui est recréée, sur laquelle l'ensemble des activités qui se font pourront se faire sans aucun problème. C'est ce que je voulais justement dire.
Merci. Alors, justement, je vous cherchais, je vous garde. C'est une réalité que nos populations aiment déféquer à l'air libre dans la plage. Maintenant que nous venons d'ériger les épis pour protéger la plage, nous venons de recharger la plage. Nous sommes allés la voir, c'est beau. Mais est-ce qu'il y a une activité qui a consisté à ériger des WC pour les populations, ou bien est-ce que nous allons continuer à aller déféquer à la plage, monsieur le coordinateur?
Donc, je crois que votre question est la bienvenue. Comme nous le, comme je le disais tantôt, et en présentant l'ensemble de nos interventions, je disais que nous avons cet aspect social, ces investissements sociaux, et ce que vous dites fait partie de ce que nous appelons les investissements sociaux qui vont se faire. Et je crois que ça n'a pas été fait en même temps que les travaux, mais c'est des choses qui sont programmées, qui vont se faire, pour faire en sorte qu'on puisse garder la plage propre. Même quand vous voyez au niveau de la mairie d'Anéo, déjà, il y a déjà une forte interdiction aux gens d'aller déféquer sur la plage. Donc, naturellement, pour que ces mesures puissent être respectées, c'est qu'il faut qu'il y ait des latrines. Et je peux déjà vous dire qu'avec la commune d'Anéo, la commune de Lac 1, avec laquelle d'ailleurs nous exécutons le volet lutte contre la pollution en matière de gestion des déchets liquides et solides, c'est plus de 127 latrines qui sont actuellement déjà construites au niveau de la commune Lac 1, Lac 1 actuellement.
Alors est-ce que Lac 3 aussi va en profiter, monsieur le coordinateur?
Oui, bon, comme je vous l'ai dit, c'est des choses, au moment où on concevait le projet, il y avait un certain nombre d'actions qui avaient été prévues sans tenir compte aujourd'hui de ce que des communes que nous avons aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, en 2018, quand ça se faisait, donc on avait la commune d'Anéo qui était beaucoup plus étendue. Aujourd'hui que nous avons les différentes communes, donc nous essayons aussi de pouvoir transplanter ce qui se fait dans d'autres communes ici, surtout en matière de gestion des déchets liquides et solides. C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'investissements qui ont été faits au niveau de la commune de Lac 1 en termes de pour la gestion des trucs. Mais au niveau des autres communes, nous allons voir comment on fait pour aussi accompagner ces communes-là dans la gestion des déchets solides et liquides.
Bon, et si Lac 3 en faisait la demande?
Non, c'est la demande déjà que nous faisons au nom de la commune Lac 3.
Oh, vous l'avez déjà fait? Ah, d'accord. Voilà. Bon, ça, c'est pour terminer, chuter. Monsieur César Eusebio, puisque nous parlons de chez nous, je souhaiterais qu'on aille un peu en langue locale, de façon brève.
Beno disait à Poitou l'année où allo à Godrafoa on doit la couvrir différence de les
vous tout le monde
on est soixante à Poitou trois l'année où autour les à Godrafoa tiens donc à Nimia Boulon Pereira bon Waka on a tout promis Kakawa jusqu'à Miva et Mito Doadi début d'année Mito Doadi 2022 et dehors le Gogo et que même le tronçon bon Gengbiam n'en a de donner un bureau qu'avant de venir même le tronçon à Godjome à Godrafo comme on le disait tout à l'heure miro financement est donc à tient bientôt à
là
voilà au dos au fond soit Godjome soit à Godrafo et que watchons le plan de l'année au poste les années au cou à Godrafo à l'élu.
Je me vieux que le film où il a tordu couteau non en plage alors à Poitou à des wagons film à boire au doigt
propre même que mille au doigt on les au ami doit d'homme de funao donc il n'y a aucun problème ni tenu compte ni moqué.
Il y a le way gazavi quoi il a photo c'est bio
à mes gants blancs années à wakama mes gants blancs années avait qui bissot tu es dia ou tout les ne anehoa ou tout gazé matéblé les gago ou gazé plus de 100
toi le far kanji
voilà
le far kabla bâton
donc à dire balé blanchambe ou le 1003 le boussoua n'a pas même été beau les à Godrafo à la fibre chama donc à y pour miate blanc
et d'où nous va pour te bio
les à Godrafo soy et la conia et d'où nous presse de camion de peut-être début juillet fier on a probablement entreprise à la tête de les à Godrafo soi et là qu'on y doit du tout et puis au revoir mieux au rechargement on va mieux au revoir
Merci à toi, belle. Merci à l'ingénieur côtier senior, monsieur Zebio, appuyé par le coordonnateur du projet Waka. Ils ont rappelé ce en quoi consistent les travaux de protection de notre côte, à savoir renforcer les épis qui ont été érigés à Neho il y a une dizaine d'années, en construire 6 nouveaux à Godrafo ici et charger la côte entre les épis. Le tronçon à Godrafo, Bojomé, jusqu'au port de Lomé fera l'objet d'un nouveau financement qui va démarrer incessamment. Merci à vous. Donc, voilà le projet tel que le Waka l'a conçu. Maintenant, à la réalisation concrète, qu'est-ce qu'il en est? Félix Anoumou de Savi, rebonjour.
Rebonjour Sas, rebonjour auditrice et auditeur.
Eh bien, regarde dans la salle s'il y a l'entreprise Boscalis qui a la charge d'exécuter les travaux.
Boscalis est là devant nous. Nous avons monsieur Makis Oyikonomou et il est le responsable Boscalis. Et j'aimerais d'abord, avant de lui poser mes questions, vous dire que les épis existaient avant les années 2000 à Néro. Les épis existaient depuis les années 80. De 84 à 85, voire 6, on avait déjà mis les épis derrière la plage de Saint-Pierre et Paul, les rues Saint-Pierre et Paul. Donc la deuxième fois, c'était dans les années 2000 et c'est la troisième fois maintenant.
Merci.
Donc c'est pour juste un rappel.
Non, c'est un témoignage du fils du pays.
Tout à fait. Merci bien. Et alors, nous sommes avec Boscalis. Et votre entreprise, M. Makis, travaille de la côte d'Agbodranfort jusqu'à Anéro, même au-delà. Vous travaillez aussi à Obéné, c'est-à-dire Ilakondji et à Goué. Nous allons être plus techniques. Les autres ont parlé et plus technique et plus clair pour ceux qui nous écoutent. Bien, concrètement, et où en êtes-vous par rapport à Agbodranfort d'abord, après on ira à Anéro. Vous avez fait quoi à Agbodranfort? Comment avez-vous réalisé les travaux à Agbodranfort?
D'abord, merci pour l'invitation.
Merci.
Bon, je pense que, du point de vue technique, c'était déjà tout dit. C'est-à-dire, le Waka expliquait bien le concept.
Oui.
Voilà, à Bodrafo, on vient de terminer tous les travaux, presque tous les travaux, c'est-à-dire oui. Construction des épis. C'était 7 épis. Attendez, je vais regarder la pompe. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça chez vous, c'est-à-dire le papier, la
note. Quand vous dites épis, oui, pour épis, celui qui nous écoute.
Oui.
Il s'agit de quoi exactement?
Ça, c'était les structures en rochement, avec différentes graduations d'enrochement, mm-hmm. Entre 500 kilos vers 6 tonnes.
6 tonnes.
Voilà, il y a la base qui est à peu près 60 mètres de largeur. Mm-hmm. La longueur, c'est entre 65 et 75.
75.
Chez vous, c'est 75.
Voilà. Oui, voilà, ça, c'est en Belgique.
Oui, voilà, exactement. C'est une variation de langue française.
Voilà. Tout à fait.
Et alors, la base, monsieur Eusebio, vous me corrigez, hein, je ne suis pas technicien, simplement je répète
oui.
Ce que j'ai appris avec le technicien ici.
D'accord.
65, et là, d'abord on met les enrochements de 500 tonnes comme la base, après c'est 1 à 2 tonnes, etc. Et au carapace, 4 à 6 tonnes des enrochements.
D'accord.
Les enrochements, c'est les. Les pierres, grandes pierres, soi-disant, on peut dire comme ça.
Et
ça
oui, c'est... On appelle ça les granites. Grosses pierres de granit.
Voilà, c'est voilà. Ça. Voilà, le technicien à côté, il va m'aider.
Oui.
Voilà, c'est ça. Alors, ça, c'est un ouvrage en rochement mm-hmm. qui protège, qui freine l'avancement de l'érosion.
Oui.
Entre les deux épis, c'est les deux structures d'enrochement, on fait le rechargement avec le sable.
C'est-à-dire, enrochement, vous parlez de, comment, rechargement. Rechargement, ça veut dire quoi simplement pour celui qui nous écoute?
Oui, rechargement, ça veut dire on emporte des sables d'outre-mer vers la plage.
C'est-à-dire de la mer?
De la mer, oui, on prend avec la drague,
oui.
On l'emporte vers la côte, et après, avec conduits de refoulement, on les recharge les casiers, c'est-à-dire l'espace entre les deux des épis.
Vous parlez de drague. C'est quoi la drague?
La drague, c'est un bateau.
Oui.
Grand bateau.
Oui.
Très cher bateau. Voilà. Qui a une structure spéciale de pouvoir prendre aspirer. Sable, aspirer le sable de plus loin de la côte. Voilà.
Et
de la zone spécifiée par les autorités.
Et le renvoyer maintenant sur la côte.
Et après, la drague vient avec les structures de conduite et on fait le rechargement de la côte entre les deux épis, les d'accord. casiers qu'on appelle.
Les casiers. Donc oui. Maintenant, en tout, vous en avez fait 7.
On a fait 7 épis, voilà.
Oui. Et nous avons à côté de Agbodranfort, Pémé, c'est-à-dire l'OTP.
Oui.
OTP à côté. Et est-ce que votre rechargement est arrivé jusqu'au niveau du WAF de l'OTP?
Ça, il faut poser question à un spécialiste en gestion des côtes, M. Eusebio.
D'accord.
Il a déjà expliqué, je pense, oui. comment concept, comment travaille le rechargement, comment se déplace le sable.
Oui.
Et moi, je ne suis pas spécialiste de gestion des côtes, alors je ne peux pas vous donner une réponse scientifique.
D'accord.
Mais si on a besoin,
on va lui poser
voilà,
la question.
Voilà, exact.
Bien. Et on parle de Bocalis. Nous, on connaissait au Togo et Boka. Entre Bocalis et Boka, c'est la même chose?
Oui, c'est, avant Bocalis, il avait un projet, je pense, à Lomé.
Oui.
Et je pense qu'il y a un lac qui s'appelle Boka.
Ou bien sûr, la place Boka. Il y a aussi.
La place Boka.
À Nera aussi, il y a la place Boka.
Voilà. Et c'est à cause du travail de Bocalis.
Donc, c'est votre entreprise qui a fait ça?
Oui.
C'est la même chose?
Oui, oui, oui.
D'accord, ok, merci. Maintenant, actuellement à Nera, vous avez réalisé quoi, en dehors de ce que M. Osebi a dit, comment est-ce que, techniquement, comment est-ce que vous avez travaillé là-bas à Nera?
Ça veut dire qu'on a emporté d'enrochement.
Oui.
On a colloqué l'enrochement sur les épis, c'est-à-dire les épis existants, l'extension.
Oui.
Et après, on a rechargé les casiers. C'est la même méthode qu'ici à Agbodranfo.
D'accord.
Il n'y a pas de... On n'a pas réinventé la rue, c'est-à-dire c'est déjà existé la méthode.
D'accord. Ok, merci beaucoup. Et nous avons visité, à côté de chez nous, à Déhor, le Bénin, c'est-à-dire Agoué.
Oui.
Et derrière l'église catholique d'Agoué, on a vu que la plage est très grande, de peut-être plusieurs centaines de mètres. Pourquoi cela n'a pas été réalisé au Togo de la même manière, pour qu'on puisse avoir une plage plus grande?
Oui, c'est de cette côté, c'est-à-dire le côté Togo, entre Agbodranfo et Anejo, il y a plusieurs épis. Oui. C'est-à-dire qu'il y a déjà une structure, un concept de freiner l'érosion. À Anejo, il n'y avait pas d'anejo vers le Grand Popo, il n'y avait pas des épis.
D'accord.
Alors il fallait créer ce qu'on appelle rechargement massif, c'est-à-dire une zone avec le sable,
oui.
Que c'est à peu près maintenant, ça va arriver à 5 km, en moyenne 150 mètres de largeur, qui va travailler comme un moteur de sable, c'est-à-dire va alimenter toute la côte jusqu'au Grand Popo. Monsieur Eusebio, vous corrigez, j'ai maintenant. Je joue le rôle de technicienne, mais bon. Mais voilà, ça, c'est le moteur de sable, le rechargement massif. Oui. Son rôle, c'est de recharger toute la côte vers le Cotonou, en disant doucement, avec pour éviter ou recharger l'érosion créée par la mer pendant ces années.
Ok, merci. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire exactement, concrètement, quel volume de sable ou de. Vous avez déversé de la mer sur les côtes à Agbodranfort et à Anejo, concrètement,
oui,
pour que ceux qui nous écoutent sachent de quoi il s'agit.
Ben, en général, dans les deux pays, on a rechargé 7 450 000 mètres cubes de sable. Maintenant, oui. Je vais regarder les notes parce que je ne me rappelle pas. Oui. À Anejo, on a posé 135 000 mètres cubes. À Agbodranfo, 2 050 000 mètres cubes, rechargement des casiers.
Oui.
Et Cardon Sableux, c'est 10 000 mètres cubes des sables qu'on a posés, c'est Veranejo.
D'accord.
Voilà, au total, bon, il faut faire le compte pour les. C'est 10 millions. À peu près 1 500 000 mètres cubes au Togo.
Au sable. D'accord.
Pour le chargement.
Ok. Maintenant, pour finir, comment vous avez travaillé? Est-ce que vous avez fait des actions sociales à ce niveau?
Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a certaines actions sociales. Une des actions sociales, c'est la piste cyclable. Ça, c'est côté Anejo. Mm-hmm. Au Bénin, on a fait aussi comme financement de Boscalis, toilettes publiques, c'est-à-dire latrines.
Oui.
Un bloc de trois latrines, trois blocs de trois latrines dans différents placements sur la, à côté de la plage, oui. Pour éviter ça que avant on a parlé de défécation sur la plage, voilà, sur la côte.
Oui.
Et c'est ça pour le moment qu'on a fait comme développement social, c'est des pistes cyclables et toilettes. À part ça, on a inauguré aussi le terrain de foot avec les potons et on a donné aussi des balles de foot pour la population, pour l'école.
Saint-Pierre-et-Paul. Saint-Pierre-et-Paul d'Anéo.
Voilà, c'est ça.
Ok. Donc, merci.
Merci à toi, Félix. Merci à vous. De sa vie avec le responsable de l'entreprise Boscalis qui a exécuté les travaux. Je rappelle que les travaux ont consisté à réhabiliter les 6 épis déjà existants à Anéo, à prolonger le brise-lames sur une longueur d'environ 200 mètres. Et toujours en erreur, il y a également une digue de 1200 mètres qui a été érigée, notamment derrière la commune Lac 1 à Anéro. Et ici à Bodrafo, c'est 7 épis qui ont été érigés et les casiers, les espaces entre les épis ont été rechargés avec le sable dont M. Oikonomou a dit que c'est spécial qui allait draguer ce sable environ 7 km en mer pour charger la côte. Mais une question encore à vous, monsieur Marquis, pour faire plus bref. Maintenant que vos ouvrages sont terminés à 98-99%, à quand la fin définitive des travaux?
Oui, on a déjà plus que ça, c'est-à-dire on est presque fini. Seulement une nivellation de certains rechargements nous reste. Alors on peut dire que le 15 mai, on finit avec tous les.
Une semaine.
Oui, à peu près ça.
Alors, est-ce qu'il y a une maintenance, aussi bien pour les digues, le brise-lames, ou bien la digue de sable? Est-ce que ces ouvrages ont besoin d'une maintenance?
Ah, ça, ça vient de dire M. Alimi, oui. Et M. Osebi aussi, que toujours il faut une maintenance. Tous les ouvrages nécessitent une maintenance, mais nous, on n'est pas chargé de maintenance.
Ce entretien. N'est pas pour la maintenance.
Non, non, on n'est pas chargé d'entretien. On a une responsabilité de garantie de bonne exécution pendant un an.
Oui.
C'est-à-dire, s'il y a malfaçon, nous, on est en charge de le réparer. Mm-hmm. Mais sur l'entretien, on n'est pas en responsabilité.
Merci à vous, M. Marquis. Nous n'avons pas le responsable du bureau de contrôle INROS LACNA, mais M. Ezebio, c'est vous qui avez conçu le projet tel que vous l'avez exécuté, présenté, le projet en théorie, et tel que M. Marquis de Boscalis vient de présenter l'exécution. Quel est votre regard, votre avis sur l'exécution des travaux?
Oui, tout à l'heure, on le disait, qu'il suffit vous-même d'aller à la plage à Anéo ou à Bodrafo, et sans même être technicien, vous allez voir qu'il y a une grande différence. Donc, les travaux étaient très bien exécutés, oui. Et ça, on peut vous le dire, dans la qualité, et avec vraiment une vitesse extraordinaire, parce que normalement, le délai d'exécution des travaux court jusqu'en fin d'année 2023. Mais tout à l'heure, vous avez écouté le responsable, l'un des responsables de l'entreprise qui vous dit que d'ici, moi je dirais d'ici depuis juin, que tous les travaux sont terminés. Mm-hmm. Merci.
Merci. Alors, docteur Alimi, coordonnateur, je reviens à vous notamment sur la maintenance. Okay. Il y a les épis, il y a la digue de sable à Anéo, mais il y a également le brise-lames. Et puis, il y a surtout le sable avec lequel on a rechargé toute la plage. Est-ce que l'une ou l'autre de ces infrastructures a besoin d'une maintenance? Si oui, à la charge de qui?
Oui, effectivement, vous savez, tout ouvrage a besoin de maintenance, si on veut qu'il dure. Ce que je voulais expliquer, c'est qu'en fait, avec l'entreprise, leur responsabilité s'arrête après la réception définitive. C'est-à-dire que dès que les travaux vont finir, il y aura une réception provisoire. Donc, jusque-là, ils ont la responsabilité de l'intégrité de l'ensemble de l'ouvrage. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait, avant de faire cette réception provisoire, ou au moment où on fera cette réception provisoire, que les travaux tels qu'ils ont été exécutés soient conformes exactement à ce que nous avions demandé. C'est-à-dire que si entre-temps il y a des petits trucs, l'entreprise a la responsabilité de le corriger jusqu'à la réception provisoire. Donc après la réception provisoire, un an après, il va y avoir la réception définitive. Et ils ont aussi cette responsabilité toujours de voir à ce que l'ouvrage soit intact. Donc s'il y a des dégradations ainsi de suite, c'est à leur charge. Maintenant, après la réception définitive, c'est à nous qui revient toute la question de maintenance.
Alors nous qui? Nous, vous, ACA, ou bien les communes dans lesquelles les travaux ont été exécutés, ou bien à l'État dans son ensemble?
Bon, à l'État dans son ensemble, parce que dans tous les cas, après, les responsabilités vont être, les rôles vont être définis, mais cela revient à l'État d'assurer, comment on dit, de la maintenance. Parce que ce qu'on a expliqué, les ouvrages ont été dimensionnés pour 50 ans, pour ce qui concerne les épis, ainsi de suite. Les rechargements de sable qui sont faits entre les casiers ne sont pas faits pour 50 ans. Eux, c'est pour 15-20 ans tout au plus. C'est-à-dire que d'ici à l'intérieur des 15 ans, ce volume de sable va diminuer. Et pour pouvoir garder la côte telle qu'elle, c'est qu'il faut penser à le recharger peut-être après 15 ans pour garder le même niveau, pour garder le trait de côte. Donc cette question, c'est au gouvernement de le gérer après le projet.
Voilà. Merci à vous, docteur Abdou Rahim Alimi, le coordonnateur du projet WACA. Oui, monsieur Mankis.
Oui, pardon, je voudrais. C'est-à-dire, les ouvrages, la grande partie des ouvrages vont terminer le 15 mai, mais on a encore piste cyclable. Mm-hmm. Alors, les ouvrages de piste cyclable vont terminer au mois de juillet. Juste pour corriger, j'ai mis une erreur.
Merci pour toutes ces précisions. Eh bien, c'est de gros travaux. Hein. Nous sommes allés voir, même en profane, on a pu en mesurer un peu l'ampleur. Et bien évidemment que ces travaux ont eu à affecter les populations dans leur cadre de vie, dans leur activité. Cela doit appeler sûrement des mesures environnementales et sociales. Et c'est Juliette que nous prions de nous chercher et trouver le responsable en charge des mesures environnementales du projet WACA.
Sass, bonjour. Le spécialiste sauvegarde environnementale et sociale, nous l'avons dans le public, c'est bien entendu Monsieur Loukman Nadjaré. Bonjour Monsieur Loukman Nadjaré.
Bonjour.
Et bienvenue.
Merci.
Sass l'a déjà annoncé, hein, il n'y a pas de risque zéro lorsqu'on parle d'activité, qu'elle soit humaine ou naturelle. Et il y aura encore plus de risques lorsqu'il s'agit des trappes. Ce que nous avons vu aujourd'hui à la plage, ce n'est pas petit, donc il y a forcément des risques. Et les politiques de sauvegarde, c'est justement pour soit éviter ces risques ou soit les minimiser. Les impacts négatifs, les risques et favoriser le développement durable. D'entrée, M. Nadjaré, je voudrais savoir en quoi ont consisté les mesures de sauvegarde sur le projet WACA.
Ok, merci. Effectivement, pour ce genre de travaux, il requiert en amont déjà d'élaborer des instruments de mitigation des impacts environnementaux et sociaux. Tel que l'EIS, l'étude d'impact environnemental et social, et le PAR, le plan d'action de réinstallation des populations, qui sont assortis, entre autres, des instruments spécifiques, tels que le plan de gestion de l'environnement, le plan de gestion des risques, comme vous venez de le dire, le plan de gestion de la biodiversité, le plan de gestion des eaux, le plan de gestion des déchets solides et liquides que les travaux vont générer.
Ce que vous nous dites, c'est beaucoup plus technique. Pour faire comprendre simplement ce qui se passe en matière de mesures de sauvegarde environnementale, concrètement, qu'est-ce qui a été fait? Quelles mesures ont été prises pour faire comprendre à toute la population et à nos auditeurs?
Ok, justement, pour amener la discussion plus basse au niveau de la compréhension de tous, c'est que lors de l'exécution de ces travaux, on a mis ensemble toute une batterie de mesures qui a consisté, par exemple, je parlais de mesures de sécurité. Quand vous voyez les gros véhicules qui sillonnent les quartiers, il doit y avoir un rapportiste pour signaler, réguler un peu la circulation à ce niveau. Les ouvriers qui travaillent sur les chantiers doivent être en épi, en équipement de protection individuelle, qui sont les casques, les gilets, pour qu'ils soient repérés de loin par les engins et même par tout autre usager. Il y a aussi les chaussures de sécurité. Donc, c'est tout cet ensemble de mesures-là qui ont été élaborées, mises en œuvre. Ça, c'est au niveau de la sécurité, ça. Sur le plan social, on ne peut pas faire de molette sans casser les œufs. On sait que pour y arriver, il va falloir impacter. Et puis, ces impacts identifiés ont été mitigés et par les mesures du PAR, tels que ceux qui ont les biens aux alentours qui sont impactés ont été dédommagés. Et la dernière fois même, certaines d'entre elles sont au total 64 personnes à recevoir les indemnisations, mais certaines d'entre elles aussi, par rapport à leur activité qu'ils y mènent, ont pu bénéficier des indemnisations liées aux pertes de revenus. Et outre cela, nous avons prescrit à l'entreprise d'employer, de faire du recrutement local. Et 38 personnes au niveau des deux communes ont été ont trouvé du boulot là-bas. Et sans compter les sous-traitants, les employés des sous-traitants au niveau des agences de sécurité ou des ouvriers de carrière, de Togo Carrière, pour ne que citer ceux-là. Dans autre mesure, il y a aussi l'école publique d'Abodrafo qui va bénéficier d'une réhabilitation après les travaux.
Et donc, globalement, nous avons les indemnisations, mais également des réhabilitations, ou plutôt les réalisations dans le domaine social, des infrastructures socio-collectives, si tout je peux. Vous l'aviez dit plus haut, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. On est dans une localité fortement spirituelle. On a des endroits qui hébergent des divinités. À Anihor, par exemple, on parle de 41 divinités. Lorsque vos interventions arrivent dans ces endroits, comment procédiez-vous?
Justement, déjà, notre instrument de mitigation, le PAR, par exemple, avait déjà dénombré 4 divinités individuelles. Je parle de 4 divinités individuelles, 2 au niveau d'Anihor, qui sont installées au niveau de l'existant 12. Quand vous êtes au niveau de la mairie, prenez les pavés, vous continuez, vous allez voir des divinités là-bas. Et au niveau d'Abodrafo aussi, ça, on les a appelées divinités individuelles parce que ça appartient à... Ce n'est pas la communauté, c'est personnel.
C'est une divinité personnelle pour quelqu'un.
Voilà. Il y en a aussi d'autres qui les ont dans leur maison. Peut-être même, si je peux le dire, je ne profane pas, c'est dans des seaux. Donc, au cours du recensement, on les a comptabilisés dans les indemnisations. Et on a demandé leur conseil, comment faire pour pouvoir les accompagner dans ce sens. Et cela a été fait. Maintenant, au-delà de ça, au niveau d'Abodrafo toujours, nous avons une divinité communautaire qui n'est pas impactée, mais qui est dans les environs des travaux. C'est au niveau de l'épi 52. Donc, pour cela, l'entreprise a dû débrousser des moyens avec le concours des garants, des us et coutumes et des initiés. Une cérémonie a été réalisée. On a même construit, pour sécuriser cet endroit, des murs tout autour et aménagé une voie d'accès aux adeptes de cette divinité communautaire.
Ça m'avait dévancé, mais je vais revenir sur ce phénomène de lieu des anses sur les plages. On a vu aujourd'hui, c'est beau, c'est très attrayant, mais souffrez qu'on vous dise que bon, c'est un endroit où les gens se sentent à l'aise pour déféquer. Est-ce que vraiment il y a des mesures, et quelles sont ces mesures pour éviter de polluer et de ces endroits, et puis de les garder aussi salubres que nous les avons trouvés aujourd'hui?
Oui, justement. Monsieur le coordonnateur parlait de projet de restauration des moyens de subsistance. Nous y avons pensé dans ce projet et qui a fait même l'objet de consultations des acteurs pêcheurs, mareuses et maraîchers. Donc, ils nous ont dit leurs besoins. Et dans leurs besoins se trouve aussi la construction des latrines au niveau de la plage. Mais au-delà de ça aussi, il faut de la sensibilisation répétitive pour ces riverains de ne pas aller déféquer. Parce qu'une chose n'est pas de construire ces latrines. Vous pouvez les construire et puis ils vont les délaisser et aller toujours. Parce que ça se le disait, c'est beau de faire ça que de là-bas. Donc il faut toujours maintenir la sensibilisation après que ces latrines-là soient construites.
Merci à toi, Juliette. Merci, Monsieur Nadjari, pour la sensibilisation. Le maire qui est avec nous est en train de noter quand ces infrastructures auront été construites, la pédagogie, la sensibilisation pour que la communauté se les approprie pour les utiliser à bon escient et à long terme. Et Juliette, je viens de découvrir que, décidément, le mot recensement est à l'heure.
Ah oui, c'est l'actualité.
Le recensement électoral, il y a quelques jours, nous avons connu le recensement général de la population de l'habitat et je découvre que ce recensement s'est étendu jusqu'aux divinités à Nehor et à Godrafo.
C'est le mot à la mode aujourd'hui chez nous.
Waka aime faire les choses de façon inclusive.
Tout à fait, et participative.
Maintenant, après, M. Nadjari va nous communiquer le répertoire des divinités recensées.
Pas de souci.
Eh bien, nous tendons vers la première partie de cette émission. Et essentiellement, c'est débattre du projet ou bien des travaux de protection de la côte et la prise en mesure des mesures, disons, les mesures environnementales et sociales. J'avais oublié de vous dire qu'à partir de midi, nous allons ouvrir les antennes au public présent ici sur les lieux, mais les auditeurs qui nous écoutent de par le monde, vous pouvez toujours intervenir sur le numéro 90 36 63 75. 90 36 63 75. Donc, une petite pause pour des aménagements techniques et nous ouvrons le micro aussi bien au public ici que à vous au bout des ondes.
93.5. Canal FM.
Eh bien, nous revenons ici au studio aménagé dans les jardins de la commune Lac 3 à Godrafo, où nous retrouvons ce 5 mai 2023 dans le cadre de la radio du littoral. Aujourd'hui, nous débattons des travaux de renforcement des infrastructures de protection de la côte ainsi que des mesures sociales et environnementales. Nous avons écouté le projet en théorie, nous avons écouté l'exécution avec Boscalis, nous avons également découvert les mesures environnementales, que ça a été conçu et mis à l'œuvre. À présent, la parole est à vous. Vous pouvez intervenir sur le numéro 90 36 63 75, mais également le public ici, si quelqu'un a un commentaire à émettre, voire une question à poser, soit à Waka ou bien à Boscalis, la parole est libérée.
En guin ou en français
aussi bien en français voilà. Qu'en guin, en minan, ou bien dans mon épée, peut-être à Oussa et Kadien. On va traduire au besoin. Alors, dans la foule, il y a un monsieur là.
Avec un chat.
Oui. Bonjour, monsieur.
Bonjour, monsieur Sasgaou.
Eh bien, c'est monsieur.
C'est Monsieur Agbassa Nikoué, président
Agbassa Nikoué. De. Oui. Eh bien, nous écoutons.
Bon, je vais m'adresser à Monsieur Zébio.
Oui.
Il y a quelques mois, nous étions à Djakin. Ils nous ont rassurés qu'ils vont construire des latrines. Mais dans son intervention tout à l'heure, il y a un doute de langage. Il y a un doute de langage parce que il a dit qu'il va voir si ils peuvent réaliser la construction de ces latrines tout à l'heure. Bon, il y a quelques semaines, un émissaire était venu encore nous voir ici. Il faisait partie de Waka pour dire aux gens de dégapir à Djekin. Non, à Lissim plutôt. À Lissim. Il y a un village à la plage de Logabi là-bas. Bon, il faut les recenser pour qu'on les dédommage. Qu'est-ce que genre de travaux ils veulent faire là-bas encore?
Merci à vous, M. Eusebio. Deux questions. Les latrines, qu'est-ce qu'il en est exactement? Ça, c'est l'un de deux. Dans la localité de Addis-Abeba, est-ce que le projet Waka connaîtrait une extension vers Addis-Abeba? C'est plutôt au coordonnateur, M.
Oui, c'est au coordonnateur. En fait, je n'ai pas, par rapport aux latrines, je crois avoir été précis. J'ai dit, nous sommes en train de développer actuellement un projet social. Donc, dans le cadre de ce projet social, les questions de latrines vont être réglées. Et que là, actuellement, la conception initiale du projet avait prévu des latrines au niveau de l'AC 1, ce qui est fait, et je donnais les statistiques. Et je disais qu'en fait, en 2018, on n'avait pas l'ensemble des communes que nous avons aujourd'hui. Et c'est normal que ce qui a été fait au niveau de l'AC 1, nous le referons dans les autres communes ici. Voilà. Donc, il y a un projet social en cours actuellement dont le contenu est en train d'être développé. Et je crois qu'on va intégrer toutes les questions de construction de la terre. Je crois qu'il n'y a pas de doute par rapport à ça.
Maintenant,
au niveau d'Addis-Abeba, quand j'intervenais, je vous ai dit que le gouvernement a mobilisé, est en train de mobiliser les fonds avec l'AFD pour faire la protection Bodjomé à Godrafo. Donc, ça veut dire qu'au niveau entre Bodjomé et Godrafo, nous allons aussi faire les épis, tel qu'on l'a fait ici au niveau d'Abodrafo. Il y a 18 épis qui sont prévus être construits avec des rechargements de sable. Et vous savez, avant de faire ce genre de travaux, comme disaient les techniciens, il y a les études préalables qui doivent être faites. Les études techniques ont été faites, on a fait l'actualisation. Maintenant, on est en train de faire les études d'impact environnemental et social et le plan d'action de réinstallation. Je crois que c'est dans ce cadre-là qu'il y a des consultations ou des investigations qui sont en train d'être faites parce que nous avons recruté un cabinet, le cabinet Iros Lakner, qui est en train de nous préparer aujourd'hui ce plan d'action de réinstallation. Et naturellement, là où les ouvrages vont être faits, ceux qui sont dans l'emprise, on les recense pour qu'on puisse les indemniser après.
Merci. Voilà. Nous sommes là, Radio du Littoral est là pour vous accompagner dans l'explication, dans la pédagogie, dans la sensibilisation. La technique m'annonçait nous dire en ligne, à tous nos excuses, il est parti, il va revenir. Le micro qui circule, un monsieur en chapeau et barbe fleurie.
Merci.
Bonjour.
Bonjour. Je suis Godson, Guétamania du quotidien Liberté. D'Aného jusqu'à Agboudrafo, du gros matériel est bien visible. Mais combien l'entreprise qui est en train d'exécuter ces travaux, combien est-ce qu'elle a touché? Bon, touché légalement, honnêtement. Je veux parler de la douloureuse sur la base du projet.
Ouais.
On veut bien savoir.
Merci beaucoup. Monsieur Boscalis, vous préparez à nous dire le coût auquel vous avez exécuté les travaux, à moins que le coordonnateur s'en charge.
Oui, bon, en fait, comment on dit, c'est un contrat pour les travaux entre les deux pays. Le contrat, globalement, faisait 53 millions d'euros. Ça fait 53 millions d'euros. Ça fait 64 millions d'euros. TTC, tout à ce compris. Donc, pour les deux pays, ça fait une affaire de 40 et quelques milliards de francs CFA, si je ne me trompe pas. Sur ces 40 et quelques milliards, en réalité, les travaux du Togo coûtent à peu près 12 milliards. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que l'ensemble de ces 12 milliards sont dépensés parce qu'entre-temps, il y a un certain nombre de travaux qui ne seront plus exécutés par rapport au contenu initial. Mm-hmm. Il y a des travaux supplémentaires qui ont été faits. Donc, on va faire un peu ces compensations pour voir quel est réellement... Ça dit qu'aujourd'hui, ça va être un peu prématuré de vous dire réellement quel s'est exécuté.
Donc, le budget initial c'est 54 millions d'euros en français, au-dessus de 48 milliards.
Oui.
En temps opportun, on ferait la part des choses.
C'est ça.
Ce qui est allé au Bénin... Et ce qui est effectivement dépensé au Togo.
Non, les travaux Togo coûtent 12 milliards.
12 milliards.
Voilà. Donc, c'est sur les 12 milliards maintenant que je dis qu'après les travaux, on verra effectivement combien a été dépensé. Sinon, le contrat par rapport aux travaux du Togo, c'est 12 milliards.
Merci. Voilà. Nous sommes à l'ère de la transparence. Les citoyens ont besoin et veulent savoir, tout simplement. L'auditeur suivant, Oui, monsieur le maire.
Oui, moi, ma question, je pense que je la pose à la place d'un chef traditionnel qui est à Gumukopé. Il a plusieurs fois demandé, maintenant que les travaux ont commencé, qu'en est-il au niveau de Gumukopé, comme vous venez de le dire dans vos trucs là aussi tout à l'heure, pour Pémé aussi également. Parce que selon les explications, moi, je crois comprendre que le problème vient du côté de l'ouest.
Vers l'est.
Maintenant que aujourd'hui nous sommes à Agbodrafo. Bon, on finit à Agbodrafo. Bon, or, apparemment, visiblement, si on regarde un peu Gumukopé et Kpémé, l'érosion aussi s'avère annoncer et la venue là-bas.
Voilà.
Donc, je pense que comme aujourd'hui nous avons les techniciens, bon,
l'étude. Nous avons surtout le coordonnateur.
Le coordonnateur. Bon, où est-ce qu'on en est pour cette étude-là?
Monsieur Docteur Alimi, qu'en est-il de Kpémé, de Gumukopé?
Bon, sans faire beaucoup de discours, je vais juste dire que le tronçon Kpémé-Anéo fait partie du contrat complémentaire qui est en train d'être préparé et pour faire le tronçon sous financement AFD et le sous-segment Kpémé-Anéo. Donc, ça fait partie du contrat complémentaire qui va
Merci.
Se faire.
Merci. Éditeur en ligne, bonjour.
Oui, monsieur Sap.
Oui.
Oui, c'est Sylvain.
Pardon?
C'est Sylvain.
Sylvain Agbayi.
Oui.
Eh bien, nous écoutons.
Bon, moi, je voudrais vous dire une question. L'autre chose, c'est à Agbayi. Monsieur Sassi aussi, c'est à Agbayi.
Nous n'arrivons pas à bien écouter. Nous n'arrivons pas à bien vous écouter, Sylvain. Diminuez un peu le volume de votre poste récepteur.
Je vais carrément le faire.
Ok. L'essentiel, c'est que vous fassiez bien comprendre.
Allô?
Oui.
Oui, je dis, l'autre fois, vous êtes à Bébato, le même endroit. L'autre fois, c'est aussi à Bébato. Moi, je voudrais savoir pourquoi le travail n'a pas fini. Parce que c'est toutes les petites volets qui sont passionnées. C'est pourquoi ils ont fait de voir les gens au bout du monde. Alors que depuis là, c'est toujours la démocratie à même temps qu'ils ne sont pas mieux. Pourquoi les travaux ne sont pas fini?
Merci. Avant que le coordinateur ne vous explique, si vous nous suivez bien, nous avons rappelé que la chef du gouvernement avait lancé les travaux début novembre. Nous sommes venus faire le point de ce que le Premier ministre a lancé. Où est-ce qu'on en est pour l'exécution? Et vous avez suivi. Ensuite, la question du tronçon du port jusqu'à Agbodrafo a été posée au coordinateur. Il y a répondu. La question également lui a été posée pour Kpémé et Gumukopé. Il vient juste de répondre. Nous vous invitons seulement à nous suivre. Très bien. L'auditeur suivant, bonjour.
Bonjour, monsieur Sass.
Oui.
C'est Papa Saginé.
Depuis un motivé.
Oui, depuis un motivé.
Très bien, nous vous écoutons.
Voilà. Monsieur Sass, souvent pour ces travaux de jardage, ça affecte d'autres parties. De la terre, c'est-à-dire que par exemple quand on avait fait les ports ou les WAF, ça a affecté d'autres parties. Est-ce que ça maintenant ne va pas affecter d'autres parties? Je ne sais pas si vous comprenez
non,
ma
j'ai
question.
Compris, j'ai compris. Le coordinateur va vous répondre.
Mais merci.
Le projet WAKA couvre une bonne partie de la côte ouest africaine. C'est pour que le problème soit résolu. Prise en compte dans tous les pays. Mais comme dans notre pays, on dit qu'on ne porte pas le chapeau au genou quand la tête est là. Monsieur le coordonnateur.
Bon, je crois que ce qu'il faut comprendre de façon générale, nous avons affaire à un phénomène naturel qui est l'érosion. En fait, on ne peut pas arrêter l'érosion et puis les travaux que nous faisons, ce n'est pas pour arrêter l'érosion. En fait, c'est pour stabiliser le trait de côte. C'est-à-dire ce que nous faisons. Les ouvrages que nous construisons, en réalité, on reporte le phénomène ailleurs. C'est en fait ça. Le phénomène d'érosion le reporte ailleurs. Donc, par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui, si vous constatez, entre Pémé et Anéon, il n'y a pas d'ouvrage. C'est justement pour ça que le maire posait la question, parce qu'il y a une érosion conceptuelle qui a commencé là. Justement, dû à l'effet cumulé de l'ensemble des ouvrages que nous faisons. Et c'est pour ça que je disais que le contrat complémentaire que nous sommes en train de discuter avec Boscalis pour faire le truc là va prendre en compte ce tronçon-là pour pouvoir faire aussi les ouvrages.
Merci. Un auditeur qui s'impatiente en ligne, bonjour.
Allô.
Oui.
Bonjour, monsieur.
Oui, c'est monsieur.
C'est monsieur Kokou.
Monsieur Kokou.
Oui, monsieur.
Eh bien, nous écoutons.
Oui, et monsieur Sass, j'allais poser une question, mais heureusement que le conseil a déjà répondu.
Merci.
Je voulais savoir pourquoi peut-être qu'il y aura un suivi des travaux. Et après la réception de loi, il y aura un suivi des travaux. Et le coordinateur a répondu que voilà, il y aura un suivi. Est-ce que chaque État devait le faire, effectivement, chaque État devait le faire de son côté, c'est-à-dire pour l'entretien des travaux. Bon, est-ce qu'il y a un comité de suivi pour pouvoir marquer chaque État que effectivement ils font l'entretien régulier des travaux? Voilà.
Merci. Y aura-t-il un comité de suivi pour la maintenance, docteur Alimi?
Bon, je crois que les premières réflexions aujourd'hui, vous savez, tout le monde a salué la naissance du ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière. En réalité, aujourd'hui, de façon institutionnelle, il va y avoir une direction chargée de la des questions de protection côtière. Je crois que le premier rôle de suivi va incomber à cette direction. Je crois que cette direction est en train d'être mise en place. Maintenant, les autres stratégies qui vont être développées avec les comités ou quoi, moi je crois que de façon institutionnelle, c'est cette direction en réalité qui va faire le suivi et tout ce qui est veille pour toutes les questions de maintenance institutionnelle.
Merci. Nous avons un ministère de l'économie maritime, nous avons même un haut conseil de l'État en mer, nous avons même un préfet maritime. Ces messieurs et dames ont du travail pour protéger, sauvegarder notre côte. L'auditeur suivant, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Sass.
Oui, c'est monsieur.
C'est Aménitos.
Pardon?
C'est Nestor.
Nestor, ok. Pour faire plus simple.
Hein?
Non, allons-y.
Ah. Sinon, bon, c'est pour dire que concernant le projet Wakala, est-ce que c'est exactement ce que les promoteurs du projet ont demandé? C'est ça qu'ils sont en train de faire sur le terrain? Parce que eux, c'est une grosse financement. Hein? Bon, oui. Est-ce que c'est ça exactement? Ils sont en train de nous faire et on ne voit rien. Bon, c'est ma question. Hein? Le coordinateur là-bas.
Monsieur Nestor.
Oui.
Nous sommes encore à Godrafort. Si vous pouvez nous rejoindre, nous pouvons vous amener à la plage. Vous allez voir ce qui est en train d'être fait.
Maintenant, ce que je dis par rapport au financement, là, c'est pas ça. Hein.
Ok. Docteur Alimi.
Bon, ce que d'abord je veux dire, je ne sais pas s'il a pu visiter la côte ces derniers moments. Venez voir au niveau d'Agodrafo, au niveau d'Anero, le travail qui a été fait, je crois que ça saute aux yeux. Bon, ce qu'il faut aussi savoir, les travaux qui se font sont des travaux qui sont très chers. Parce que la construction ou la mise en place d'un épi avec le rechargement, tout ça, c'est de gros investissements. Il parlait de la drague, c'est-à-dire que le bateau qui va ponctionner le sable en mer pour faire le refoulement. Quand vous allez déjà même l'immobilisation de ce bateau par jour, fait une affaire de 136 000 euros.
136 000 euros 136 par jour.
Donc, c'est des gros investissements qui sont faits là à travers ce qui est fait au niveau des travaux.
Alors, justement, il voudrait s'assurer que le projet qui a été conçu est effectivement exécuté.
C'est exactement ce qui est exécuté.
Merci, docteur Alimi. L'auditeur en ligne, bonjour.
Allô, bonjour.
Oui, c'est monsieur.
Bozambo. Ok.
Nous vous écoutons.
Ok. Il faut que les journalistes suivent les travaux. Donc, il faut que l'État communique comment il va faire les travaux, il mette sur la communication et les journalistes suivent les travaux et à étonnance. La fois passée, vous avez reçu les gens de Beaumont. Ils ont dit qu'ils ont terminé la voie du Talé à Kévé. Mais, et de péage jusqu'à Akété, au dispensaire d'Akété, la route n'a pas encore terminé là-bas. De Badé jusqu'à Asamou, à Torika, la route, ils ont fait première couche à Badia jusqu'à aller à Kévé. Et c'est fini. Troisième couche qu'ils vont venir faire, c'est resté comme ça. Les caniveaux ne sont pas fermés. Les trous sont sur la route. La route est en train de gâter encore.
Oui, je vous rappelle que nous sommes dans le cadre de Radio de Littoral et nous parlons aujourd'hui de renforcement de la côte.
Ah, ok. Et renforcement de la côte, donc, moi j'ai écouté la route qu'ils ont en train de faire de Damero.
Et nous vous avons dit qu'avant l'émission, nous sommes allés sur le terrain, nous avons vu, nous ne sommes pas des techniciens, mais nous avons quand même vu ce qui est en train de se faire et nous avons invité les techniciens et c'est eux qui nous parlent.
Ah, ok. Mm-hmm. Donc, eux aussi, s'ils viennent, ils n'ont qu'à dire la vérité. Donc, s'ils ont dit quelque chose, nous, on était partis pour le terrain, on a vu d'autres choses, on va les dénoncer.
Merci. Ok, merci. La vérité est sacrée et c'est ce que les auditeurs veulent savoir. Nous avons le temps de recevoir un dernier auditeur ou bien quelqu'un dans le public ici. Eh bien, nous allons accorder, hein, plutôt c'est le maire qui va s'accorder le privilège, hein, de nous dire en une, deux phrases ses impressions, hein, sur ces travaux qui se font dans sa commune pour ses populations. Monsieur le maire.
Oui, merci Sax. Il y a de cela deux mois que ces travaux ont commencé et nous les avons suivis. À chaque jour, on a fait au moins deux, trois visites comme ça au moment des travaux. C'est vrai que c'est des travaux de gros investissements, mais je pense que eux, en tant que techniciens, c'est ce qui a été consigné dans leur contrat. Bon, ma deuxième satisfaction, c'est que nous leur avons demandé de faire des recrutements locaux. Et c'est ce qui a été fait. Ça, c'est une bonne chose que nous souhaitons toujours que ça soit comme ça. Également, pour Boscalis, je pense que régulièrement, nous sommes en contact pour voir. C'était il y a trois jours de cela que j'apprenais que ils ont terminé les travaux. Et surtout, ce travail, ces travaux qu'ils ont fait au niveau de la plage, je pense que quelqu'un qui n'est pas à la plage ne peut pas savoir l'importance de ce qu'ils ont fait. Ça, nous les apprécions parce qu'aujourd'hui, on a eu quand même des échos de satisfaction de par la population qui sont les riverains. Et ce que je vais ajouter, c'est que tout à l'heure, les auditeurs vont comprendre qu'il y a quand même des œuvres sociales qui ont été faites peut-être à Néo et qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore fait à Godrafo. Nous sommes en pourparler, comme il avait expliqué que c'était un projet avant l'arrivée de la commune. Et je pense et je crois que ça va être fait.
Merci, monsieur. Il y a un auditeur et ce sera le dernier. Bonjour. Allô, l'ami. Il est parti. Eh bien, nous arrivons donc au terme de cette émission. Et les amis de Radio Littoral me chargent vraiment de remercier le maire qui nous accueille à chaque fois que nous sollicitons ses installations pour animer chez lui. Le coordonnateur du projet Waka, qui est notre principal, hein, pour ne pas dire unique partenaire à la radio du littoral. Et pour cette émission, je remercie la consoeur Juliette Camden, les confrères Félix Anoumou de sa vie, Abel Aglamé, mais c'est toute l'équipe de la radio du littoral. Hein. Taxi FM est là, la radio Mokoko est là, Radio Nana FM est là, le journal Liberté est là,
le journal L'Union pour la Patrie est là, le site d'information Togo Fest est également là, et nos partenaires de Radio Lumière, de Radio La Paix, la Voix des Plateaux à Takpamé, Radio Lumière c'est en Erhoff, Radio Centrale FM à Sokoré, Radio Sama FM à Baga, hein, à Niamtougou, Radio Daoula Bassa, Radio Courtoisie à Dapan, mais également les sites et autres applications qui font que cette émission est suivie non seulement au Togo, mais un peu partout dans le monde. Monsieur le maire, merci encore une fois. Monsieur le représentant de Boscalis, merci. Le directeur professionnel de l'environnement qui est avec nous, et le grand public de la commune Lac 3 qui est venu nous écouter. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous allons nous dire, nous allons nous faire un banc. Si cette émission nous a plu, nous allons faire un banc d'applaudissements qui va réveiller les morts qui dorment à la morgue d'Anehor. Merci, merci, merci beaucoup. C'est fini pour aujourd'hui. La radio du littoral, nous nous donnons rendez-vous au dernier vendredi de ce mois de mai. Nous aurons le temps de vous situer sur le lieu et le projet qui va nous accueillir.